Depuis le lancement de Thémavette en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Ronéo pour les vétérinaires et les Ronéox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Ronéo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéotistes ou les preneurs, hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Ronéo, Ronéox? Eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en 5 minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein. Vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit. Par contre, il faut que vous vous connectiez à votre compte Thémavette et pour les vétos, que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'Ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode.
Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavette.
Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavette.
Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité.
Vous êtes ici chez nous.
Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute!
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire Annelise Chabert. Bonjour Annelise.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors Annelise, tu es diplômée de l'Université de Liège en Belgique en 2007. Tu es aujourd'hui experte One Health avec une double affiliation et à l'école de santé publique et à l'école vétérinaire de Adélaïde en Australie. Avant d'en arriver là, tu es passée par un master complémentaire en santé des animaux sauvages au Royal Veterinary College à Londres et la Zoological Society of London. Tu es également passée par un PhD en épidémiologie à l'Université de Liège, ainsi qu'un parcours divers et varié sur plusieurs continents. C'est un sacré teasing déjà que tu nous fais là. Tu es aussi femme, maman, avide lectrice et sportive. On n'échappe bien sûr pas au surf ni au kitesurf quand on vit en Australie. Annelise, es-tu prête pour nous emmener en voyage?
Oui, je suis prête.
Alors, commençons par la question traditionnelle de Veto Micro. Pourquoi vétérinaire?
Alors, j'ai commencé à vouloir être vétérinaire quand j'étais toute petite en regardant les documentaires de David Attenborough et je me disais que c'était une bonne façon de préserver la nature, la faune sauvage qui nous entourait dans divers pays. Et donc j'ai commencé mes études vétérinaires en sachant déjà que je voulais travailler dans la faune sauvage et dans la préservation de la nature.
Ah oui, donc ta vocation de faune sauvage, elle démarre très tôt. Est-ce que tu peux préciser, alors moi je connais très bien David Attenborough, mais est-ce que tu peux préciser pour nos auditeurs qui c'est et quel genre d'émission il nous fait découvrir?
Alors il a travaillé surtout pour la BBC et il faisait des documentaires animaliers. Et c'était pas du tout dans le sensationnalisme d'avoir un animal qui se jette sur une proie et ou alors d'avoir quelqu'un qui essaye de montrer une situation dangereuse. C'était vraiment toujours l'explication des écosystèmes, montrer comme le monde animal était bien fait, magnifique. Et donc il est encore en vie. D'ailleurs, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur quand j'étais à Londres. Et il a travaillé devant les écrans pendant à peu près plus de 50 ans, même 60 ans, je pense. à nous révéler le monde animalier, que ce soit des toutes petites bêtes jusqu'aux baleines bleues.
Je suis très envieuse que tu l'aies eu comme professeur. C'était une de mes idoles aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a pas mal de ces émissions plus récentes qui sont sur Netflix, notamment Life, où ce sont des émissions animalières, mais dans le contexte aussi des problématiques climatiques. Et je vous invite vraiment à aller voir ces émissions qui sont absolument fabuleuses. Merci pour ces précisions. Donc, pour toi, la définition de vétérinaire à l'époque, c'est déjà quelqu'un qui va aller s'écarter, on va dire, que de la canine ou la l'équine, comme on peut se l'imaginer, et aller vers la faune sauvage. Elle te vient d'où cette définition? Parce que moi, je me rappelle aussi petite d'avoir vu ces émissions, mais je faisais pas forcément le lien entre être vétérinaire et pouvoir aller sur la faune sauvage. C'était une évidence pour toi ou tu l'as acquérie à d'autres endroits également?
Mais je pense que c'était une évidence pour moi que c'était la faune sauvage. Par contre, je pense que ce que j'ai acquis au fur et à mesure de ma scolarité et surtout de mon parcours professionnel, c'est que je voulais m'intéresser aux populations. Donc, au lieu de m'intéresser aux individus, donc des animaux sauvages, mais à l'échelle de l'individu. Donc, quand j'ai fini mon école véto, d'ailleurs, je suis partie en zoo parce que je me suis dit, ben voilà, quand on veut s'occuper de faune sauvage, c'est dans un milieu captif. Mais très rapidement, à Liège, on doit faire 6 mois de stage, en extérieur, et je l'avais fait au Dural Wildlife Conservation, ça s'appelle Dural Wildlife Trust, donc c'est le zoo de Jersey, et ils ont des programmes de conservation in situ et ex situ aussi. Et donc là, déjà, je me suis dit, ah, mais en fait, zoo, c'est le milieu captif, mais pour avoir un impact, il faut quand même déjà aller voir ce qui se passe dans l'environnement et essayer de faire des programmes de réintroduction. Et là, je me suis dit, ce qui est vraiment important, c'est de travailler à l'échelle de la population. Et en fait, c'est là où je pense que j'ai cheminé. Je me suis dit, je veux pas travailler en zoo. Alors, j'ai quand même travaillé un petit peu en zoo. Mais ce que je veux faire, c'est les animaux sauvages dans leur milieu naturel. Et après, j'ai cheminé encore plus. Je me suis dit, ce que je veux faire, c'est essayer d'endiguer ce qui a un impact sur leur population. Donc, c'est toutes nos activités, anthropogéniques qui ont un impact sur leur population. Alors, ça va du trafic d'animaux à la pollution. Et c'est là où j'ai commencé à bifurquer sur l'impact sur la santé humaine. Parce que ce qui impacte les populations sauvages, ça nous impacte aussi. Et souvent, c'est un axe beaucoup plus percutant pour les décideurs politiques d'écouter ce qui se passe ou les risques pour la population humaine que les risques pour les animaux. Donc j'ai un peu commencé à mêler les deux pour sensibiliser en fait les décideurs politiques et le public.
D'accord, très clair. Donc tu tires un fil presque. En fait, tu pars d'animaux, animaux sauvages, environnement et puis santé publique.
Exactement. Et je pense que c'est vraiment fait comme ça. Et j'ai appris tout au long de ma carrière, je pense que c'est, je l'ai pas eu en sortant de la fac. Alors maintenant, j'enseigne ça à mes étudiants, et donc il y en a qui ont cette révélation. En sortant, là, j'ai 5 étudiantes en thèse qui font tous des projets sur le One Health, et on est tout ce qu'on appelle. Enfin, je considère que c'est pas des étudiantes, maintenant je les considère comme des collègues, et je le considère comme pro-académique. Alors ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Pro-académique, c'est practitioner and academic. Donc ça veut dire qu'on fait du travail de terrain aussi, et on essaie que notre recherche soit très appliquée. Et donc elles ont commencé tout de suite, mais alors j'ose croire que des fois c'est parce que je leur ai dit que voilà, ça existait, et moi à mon époque personne me l'avait vraiment dit, donc c'est vraiment été un cheminement de travailler dans cette zone de One Health.
Oui, ça allait être ma question d'ailleurs. Comment ça se passe les études quand assez rapidement tu découvres que ton fil conducteur finalement il est pas du tout révélé dans les études telles qu'elles se passent aujourd'hui en vétérinaire.
Oui, alors ça s'est vraiment passé. Donc après mes études vétérinaires, je suis partie faire un master justement en faune sauvage à Londres, et on devait faire un petit projet de recherche pour valider le master. Et je voulais enquêter sur le trafic international et intercontinental de viande de brousse entre l'Afrique et l'Europe. Alors à l'époque, c'était un peu compliqué parce qu'on m'avait dit mais c'est pas un sujet, ça n'existe pas, vous allez faire chou blanc. Et je me suis dit je vais quand même essayer. Alors là, je peux le dire, c'était mon beau-père qui s'appelait Yves Lignereux, qui était prof d'anatomie à Toulouse, qui m'avait dit qu'il y avait de la viande de brousse en vente à Toulouse. Alors je me suis dit, s'il y en a en vente à Toulouse, c'est que ça doit bien arriver quelque part. Et donc là, j'ai essayé de monter un projet pour élucider cette question et de voir combien de viande de brousse arrivait. Alors à Toulouse, on a regardé un petit peu à l'aéroport, mais surtout à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et je voulais enquêter sur les espèces qui étaient importées, les volumes. Je voulais regarder les risques sanitaires et puis je voulais aussi enquêter ce qui se passait dans le marché de Châteaurouge où on pouvait acheter de la viande de brousse, on peut toujours en acheter d'ailleurs, à Paris. Et donc j'ai commencé à faire cette étude et là j'ai vraiment commencé à lier l'impact sur la conservation mais aussi l'impact sur la santé publique. Et donc j'ai fait cette première étude qui a été un assez gros succès parce que j'ai eu des données très importantes. J'ai pu publier un article dans une revue scientifique qui est toujours bien cotée, qui s'appelle Conservation Letters, et ça a été repris par National Geographic. Et donc là, ça a été un peu une révélation que voilà, je pouvais continuer ma carrière sur le trafic illégal d'animaux et essayer d'aider les douanes et les polices à mieux endiguer cette problématique ou ce trafic. Alors par contre, je me suis révélée rapidement une réalité de terrain, c'est que en 2008, ça n'intéressait absolument personne. Alors ça avait fait un gros buzz médiatique, mais il n'y avait pas encore une écoute vraiment, ni à la Commission européenne, ni nulle part, même auprès de la CITES. Donc la CITES, c'est la Convention on International Trade of Endangered Species. Et donc c'est des permis qu'on doit avoir en fonction des espèces qui sont importées ou exportées. Et qui sont liées à leur niveau de si elles sont en danger ou pas. Et donc j'avais même contacté la CITES à l'époque qui m'avait dit oh, mais la viande de brousse ça rentre pas trop dans le cadre de nos prérogatives etc. Donc j'avais pas vraiment eu une oreille attentive de personne. Alors j'étais un peu repartie dépitée. J'étais contente en me disant bah oui c'est un vrai sujet de recherche, mais à l'époque j'avais l'impression d'avoir pas eu énormément d'impact. Et puis c'est vraiment les Belges qui quelques années plus tard m'ont recontacté en me disant on voudrait faire la même étude mais beaucoup plus longue sur 2 ans et voir ce qu'on pourrait faire pour endiguer le fléau à l'échelle de la Belgique. Et donc là on a refait cette étude mieux, plus longtemps et on a essayé d'avoir plus d'impact à l'échelle européenne et c'est vraiment que maintenant, donc maintenant on est en 2024, que j'ai l'impression qu'on commence à bouger sur la viande de brousse. Donc voilà, on a des fois des échelles de temps très longues, mais petit à petit les choses avancent.
Oui, ça doit être. J'imagine que ça peut être assez frustrant. J'ai des questions par rapport à déjà cette étude, enfin ce projet. Ça a dû être un travail colossal, étant donné que tu partais de zéro. Et puis j'ai l'impression que tu as rencontré quand même de nombreux freins, d'après ce que tu me dis.
Alors j'ai eu des freins, mais j'ai eu des aides aussi parce qu'en fait les douaniers qui étaient sur le terrain étaient top. Quand je suis arrivée, ils ont tout de suite bien voulu m'aider, etc. J'avais les services vétérinaires à la douane, enfin pas la douane, à l'aéroport à Paris, qui avaient été aussi très aidants. J'ai rencontré beaucoup de chercheurs et de gens qui ont bien voulu travailler. Enfin j'avais un budget dérisoire. J'ai fait cette première étude avec 550 euros. Donc c'était quand même pas énorme et j'ai beaucoup de gens qui ont mis beaucoup de bonne volonté pour que l'étude se fasse et qu'on ait des résultats satisfaisants qui soient d'ailleurs publiables. Donc j'ai pas eu de frein à la réalisation de l'étude. Ce qui a été plutôt décevant, c'était après comment l'étude a été la non utilisation de ces résultats. Mmh. Et maintenant c'est utilisé. Et c'est très bien. Et ce que je voudrais vraiment mettre en exergue, c'est que je l'ai faite en France. Mais la raison pour laquelle je l'ai faite en France, c'est que j'avais demandé aux douanes en Angleterre, la faire en Angleterre, ce qui m'avait été refusé. Et donc, quand on a publié l'étude, c'est apparu comme si c'était un problème français. Et ce qui n'était pas vraiment le cas, c'est que la France avait bien voulu la faire l'étude, alors que d'autres pays l'avaient refusé. Et donc, je me suis trouvée dans une situation délicate, parce que je voulais me mettre à dos personne, et je me suis dit c'est pas trop juste quand même qu'on accuse les hommes, alors que, en fait, je suis sûre que si je l'avais fait à Londres, j'aurais aussi eu des résultats très intéressants.
Bah, c'est sûr. Et qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'ils ont refusé? C'était mentalité un peu autruche ou d'autres raisons?
Je pense que, alors là, c'est pas du politiquement correct, mais je pense que révéler un problème auquel on n'a pas forcément de solution, on n'a pas de solution à apporter, en tout cas dans le temps court, c'est toujours risqué pour un gouvernement. Et donc, en effet, je pense que c'est un peu politique.
Donc tout ça, ça se passe pendant ton master. Qu'est-ce que tu fais d'autre pendant ton master? J'imagine que tu as des cours, bah, notamment tu as parlé de David Attenborough, tu as des cours magistraux.
Oui, on avait des cours magistraux et puis on avait, je crois que c'est 2 jours par semaine où on était en zoo. Alors, il y a 2 zoos à Londres, enfin, auprès de Londres, il y a le zoo de Londres et puis le zoo de Whipsnade qui est à 1 heure de Londres ou 45 minutes de Londres. Et donc, on était un jour, deux jours par semaine, je crois qu'on avait des, je m'en rappelle plus très bien, j'ai une mémoire un peu défaillante, mais je crois que c'est deux après-midi par semaine. On était au zoo en tant que... On était avec les cliniciens et on faisait du travail clinique dans un zoo.
Et qu'est-ce que tu retires de cette période-là avant d'aller revenir en Belgique, faire ton PhD?
Alors, moi, j'ai déjà appris beaucoup techniquement et justement sur les populations, sur l'introduction de pathogènes quand on bouge des animaux, une connaissance... Quand je suis sortie de mes études vétérinaires, j'ai l'impression que l'épidémiologie, je l'avais faite de façon très scolaire. J'avais pas très bien réalisé comment on pouvait appliquer tous ces principes de stats et d'épidémio qu'on a appris bien pour finir. Mais j'étais peut-être trop jeune quand je l'ai fait. J'avais pas bien réalisé. Et puis au master, là, j'ai compris à quoi on pouvait, comment on pouvait utiliser. Compétences. Mm-hmm. Voilà, merci. et donc voilà, c'est ça que j'ai appris. Et puis après, je me suis surtout fait beaucoup de très très bons contacts dans le milieu de la faune sauvage, ce qui non seulement aide à avoir un travail, mais qui peut aussi aider à le garder. Parce que des fois, c'est comme quand on est jeune vétérinaire et qu'on a besoin de faire une chirurgie qu'on sait pas faire. Et ben quand on travaille en faune sauvage, on est souvent confronté à des nouveaux cas. Et ça peut être de l'anesthésie en milieu sauvage ou gérer une épidémie, etc. Et donc c'est bien d'avoir de bons contacts qu'on peut appeler et qui peuvent nous répondre rapidement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que cette époque à Londres m'a amené. Puis en plus des bonnes copines, des bons copains que j'ai encore. Donc, c'était un bon moment.
Est-ce que à ce moment-là, t'as une idée précise du métier dans lequel t'as envie de te retrouver, ou est-ce que t'es encore dans un processus d'apprentissage à ce moment-là?
Mais là, à ce moment-là, c'est très clair que je veux faire de la faune sauvage et pas vraiment en zoo, mais en milieu naturel ou vraiment sur des projets de conservation. C'est très clair déjà à ce moment-là que je veux travailler sur des projets qui permettront d'endiguer le trafic illégal d'animaux. Mais tout en réalisant que je sais pas trop comment m'y prendre. Parce que je vois que les gens qui travaillent sur ces secteurs, c'est très académique, mais il n'y a pas forcément un côté pratique qui peut être utilisé pour endiguer le trafic. Donc je suis dans... J'ai des idées de ce que je veux faire, mais je sais pas encore trop comment le faire à ce moment-là.
Encore un peu dans le flou.
Voilà. Et en fait, je me souviens du directeur du master qui m'avait dit: Annelise, toi, ton travail, il faudra que tu te le crées. Et ça m'avait vraiment marqué qu'il m'ait dit ça. Et en fait, j'y pense encore souvent, parce qu'encore maintenant, je me dis que mon travail, il faut que je me le crée. Et c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, mon travail, je me le suis créé. J'ai créé, et même dans les postes que j'ai, là, maintenant, j'ai un poste académique qui s'appelle One Health. Et je suis arrivée et ils m'ont dit: ta carte blanche, tu crées ton programme de recherche, tu crées ton programme d'enseignement. Et donc, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai en fait un peu créé mon travail. Et il m'avait dit, c'est tu devras te créer ce que tu veux faire, parce qu'en fait, ça n'existe peut-être pas.
C'est de l'entrepreneuriat, en fait.
C'est de l'entrepreneuriat, oui, exactement. Je pense que tu as vraiment le bon mot.
Est-ce que c'est une fibre que tu avais, je rebascule vers ton adolescence ou peut-être même ton enfance, au-delà de cette... affinité évidemment vers les animaux et cette envie d'aller soigner les animaux sauvages. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est une compétence, entre guillemets, une qualité que tu retrouves quand tu repenses à toi enfant? Cette fibre, cette envie de construire, de créer de nouvelles choses, peut-être la créativité?
C'est difficile à dire. Puis je vais pas trop me faire mousser. Je pense que oui. J'avais peut-être cette fibre, en tout cas dans l'entrepreneuriat, oui. J'ai toujours bien aimé créer et essayer de faire des liens, et essayer de vendre un peu mes idées. Donc ça, je pense que tout le temps. J'ai toujours essayé aussi de rassembler les gens pour créer des projets plus grands. Alors c'est juste un exemple, mais ouais, c'est un tout petit projet. Mais quand j'ai dû passer, par exemple, mon permis de conduire, à l'époque, j'étais dans une pension qui s'appelait la Légion d'honneur, une maison d'éducation de la Légion d'honneur. Et j'avais, avec une amie, contacté toutes les filles qui étaient en âge de passer leur permis pour savoir qui veut passer son permis en même temps que nous. Et du coup, on avait un groupe de 35 personnes ou 40 personnes qui voulaient passer son permis. Donc, c'était énorme comme classe. Et on avait démarché toutes les personnes toutes les entreprises qui faisaient passer le permis pour leur dire, voilà, on a un groupe de 40, quel prix, comment vous arrangez, etc. Et donc, on avait trouvé un des super tarifs. Et donc, alors, je sais pas si c'est de la créativité, mais en tout cas, c'était peut-être une petite fibre d'entrepreneuriat déjà à l'époque.
Mais carrément, parce que ces genres de choses, on se dit, oui, voilà, exactement ce que tu dis. Oui, c'était un petit projet, parce que toi, ça te semblait finalement logique et facile. Mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont se dire, oh là là, mais jamais j'aurais fait un truc pareil. Donc oui, clairement, pour moi, c'est assez représentatif de quelqu'un, voilà, qui a une âme de leader et en tout cas une âme d'entrepreneuse et clairement une âme de négociatrice aussi, puisque tu me racontes. Chouette, c'est un super exemple. Ok, bah clairement, voilà, t'as cette fibre enfant qui commence à ressurgir du coup. Le PhD à Liège, ça s'est construit sur ton projet de master, c'est bien ça?
Alors j'ai envie de dire oui et non. Parce qu'en fait, après Londres, je suis partie en Afrique pour une mission assez courte. Alors là, c'est vraiment la téléanesthésie d'animaux sauvages dans le delta de l'Okavango. Donc en fait, j'étais un peu, j'étais la vétérinaire qui anesthésie les animaux. Surtout, c'était des grands carnivores qu'on faisait, donc lion, hyène, guépard, léopard, lycaon. Et après ça, j'ai eu un boulot aux Émirats Arabes Unis. Et je travaillais beaucoup sur les maladies. Alors, mon projet au début aux Émirats Arabes Unis, je travaillais avec un zoo à l'époque, mais c'était pour la réintroduction d'espèces qui soit disparues, soit très en danger dans leur milieu naturel. Et j'ai commencé aux Émirats Arabes Unis à avoir une expérience, alors là, j'allais dire en épidémiologie, beaucoup plus poussée parce que on avait beaucoup d'épidémies. Dans les animaux sauvages et aussi dans les animaux domestiques. Et donc, j'ai commencé à travailler vraiment à l'interface animaux sauvages, animaux domestiques. Il y avait aussi des maladies zoonotiques, dont la brucellose et la fièvre Q. Et donc, là, j'ai vraiment eu accès à beaucoup de données que je collectais et qui étaient vraiment liées à mon travail. Et je me suis dit que c'était dommage de faire tout ça et premièrement, de pas publier, et deuxièmement, de pas valoriser ce travail par une thèse. Et c'est pour ça que je me suis de nouveau approchée de la faculté de Liège, leur disant « Est-ce que je peux faire une thèse avec vous ?» Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une thèse qui s'appelle, alors en anglais, c'était « Disease Detection and Management of the Wildlife-Livestock-Human Interface ». Et vu que je travaillais aussi sur le trafic illégal d'animaux, enfin, j'ai jamais arrêté en fait toute ma vie. J'ai aussi inclus cette partie-là dans ma thèse, qui est aussi un lien pour la transmission de maladies.
Donc la thèse, tu l'as fait en parallèle de ton travail aux Émirats.
Exactement. Ouais.
Ok. Ok. Et elle te prend combien de temps alors cette thèse?
Alors, j'ai mis 3 ans et demi, je crois. Oui, c'est ça.
Ce qui est plutôt peu pour quelqu'un qui fait une thèse et qui travaille à côté.
Et oui, mais vu que mon travail c'était ma thèse en même temps, enfin mon travail c'était ça rajoutait pas ma thèse, rajoutait alors si parce que je publiais pour ma thèse, mais c'était quand même mon travail. Donc, ma thèse et mon travail étaient liés. C'est pas comme quelqu'un qui travaille en tant que clinicien et qui à côté fait une thèse complètement complètement différente.
Qui n'a rien à voir. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire cette thèse?
Je pense que ça m'a apporté une certaine rigueur dans ma façon de collecter les données, de les analyser, de les publier. Et ça m'a, après la thèse, ça m'a apporté aussi une crédibilité. Parce que quand on commence à publier, on commence à, les gens se disent, ah bah là, c'est quelqu'un qui publie, donc c'est sérieux, ça a été peer reviewed. Donc on est sûr que les analyses ont été bien faites, etc. Après, je pense que j'aurais pu me débrouiller sans thèse, mais à l'époque et encore maintenant, je trouve que c'était une bonne chose de la faire. Ouais. Surtout que bon, à l'époque, je savais pas que j'allais partir dans un milieu académique, mais maintenant que je suis dans un milieu académique, si j'avais pas eu ma thèse, ça aurait été vraiment compliqué.
Donc pendant cette thèse, tu es aux Émirats. Comment ça se passe à suite à ça?
Et donc j'ai passé 8 ans aux Émirats. Donc les Émirats, c'est alors il y a beaucoup de gens qui disent oh ça doit être très dur pour une femme, etc. Alors, moi j'ai pas du tout trouvé que c'était dur pour une femme. À l'époque, je pense qu'il y avait vraiment une volonté de montrer que c'était un pays moderne et qui justement qui laissait, alors pas tout le monde, hein, mais beaucoup voulaient montrer que les femmes avaient leur place et qu'elles pouvaient avoir un travail, monter une compagnie. Alors d'ailleurs, aux Émirats, j'ai monté une boîte de consultance et j'ai travaillé aussi pour le gouvernement. Et donc, alors déjà, ma place de femme, j'ai pas trouvé qu'elle était compliquée. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu délicat parce que on se retrouve à manager, je sais pas, moi, je manageais une équipe de 120 hommes. La plupart étaient afghans ou pakistanais ou indiens, et donc ils ont des références culturelles qui sont vraiment différentes. Mais en fait, ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu de problème, ou presque jamais eu de problème en tant que femme. Et la seule fois où j'ai eu un problème, alors je peux raconter ça en anecdote, c'était dans le département de l'immigration. Et j'essayais de résoudre un problème de visa pour 2 de mes employés et qui les papiers n'arrivaient pas, etc. Et donc j'y étais allée en personne pour que finalement mes employés ne deviennent pas des illégaux, parce que par contre là-bas, quand on devient illégal, ça devient compliqué, ça veut dire qu'on n'a plus accès au système de santé. Et vu que moi tous mes employés, bah ils étaient dans des situations où il fallait absolument qu'ils aient accès au système de santé. Ils faisaient quand même des choses un peu dangereuses avec les animaux. Bon, bref, je voulais absolument pas que ça se passe. Et donc, j'avais été, et une des personnes à l'accueil s'était énervée contre moi. Je le mettais un peu le dos au mur en disant « Mais quand est-ce que les papiers vont arriver ?» Et il m'avait lancé devant tout le monde que je devrais retourner dans ma cuisine. Alors déjà, ça veut dire qu'il sait pas comme je cuisine, parce qu'en vrai dire, c'est toujours Louis, mon mari, qui cuisine, parce que je suis pas une as des fourneaux. Et puis ça m'avait vraiment énormément choquée. Et en fait, j'étais tellement abasourdie que quelqu'un me dit ça. C'était la seule fois, je pense, à ce moment-là, ça faisait cinq ans que j'étais aux Émirats et j'avais jamais eu de problème du tout. Et donc j'étais sortie un peu, abasourdie. Je savais pas quoi répondre. C'était la première fois de ma vie où j'ai eu un moment de blanc. Pas de réponse. Et puis j'ai appelé mon mari en me disant mais voilà ce qui vient juste de m'arriver. Et Louis m'a dit bah fais ce que tu fais de mieux, va te battre. Et donc je suis re-rentrée dans ce bâtiment, et les départements d'immigration, c'est un grand bâtiment à Abu Dhabi, et chaque étage plus ou moins est lié à un peu à l'étage hiérarchique des personnes qui y travaillent. Et donc j'ai appuyé, alors je sais plus quel était le bouton, mais au l'étage le plus haut, et je suis arrivée dans le bureau du directeur de l'immigration, et je lui ai dit, ben voilà, je voudrais vous rapporter quelque chose qui vient juste de se passer en bas. Donc je lui ai dit qu'on venait juste de me dire que de retourner dans ma cuisine, et que je travaillais pour un tel et un tel, et que je trouvais que c'était pas normal. Et il s'est platement excusé, il m'a dit, je peux pas contrôler ce que les gens pensent, mais je peux contrôler ce qu'ils disent, et je vous promets que plus personne ne dira ça dans l'étage du bas. Donc c'était pour prouver que quand même les gens qui sont en haut, aux Émirats, essayent en tout cas de protéger les femmes. Tout le monde n'y adhère pas, mais quand les gens n'y adhèrent pas et qu'on se plaint, bah, et qu'en tout cas qu'on est blanche et qu'on est docteur, on peut être écouté.
Oui, et qu'on réagit de manière intelligente.
Oui. Et alors ça, je peux dire que je pense que c'est parce que j'ai un mari qui est peut-être plus féministe que moi, parce que j'ai failli partir. J'étais un peu choquée. J'ai pas pleuré, mais c'était un moment où j'étais un peu à la fleur de peau, et que lui me dise de t'y retourne et tu vas leur dire que c'est pas possible. Ça m'a vraiment. Je me suis dit oui, c'est vrai, il faut que j'y retourne et que je leur dise c'est pas possible. Après, moi, j'étais où que je travaille, où que je sois, je me suis toujours dit que si un jour les gens me disent bah écoute. Ce que tu penses, ce que tu veux, ça nous va pas, il faut que tu partes, et ben je partirai. Donc j'ai jamais eu un travail où je suis jamais restée dans un pays où je me suis dit que je ne devais pas dire ce que je pensais, même aux Émirats. Alors voilà, faut juste que je fasse attention encore maintenant, peut-être que je me permette pas d'aller travailler partout dans le monde, parce que je sais pas si ça serait accepté partout dans le monde.
Non, probablement pas, mais apparemment tu te connais bien, donc je pense que ça c'est une vraie force. Et vraisemblablement ton mari te connaît bien aussi.
Oui, pour ça, oui.
Je rebascule, c'est 120 personnes qui travaillaient pour toi, alors elles faisaient quoi exactement?
Alors là, c'est à l'époque, c'est quand je travaillais pour ça s'appelait Align Wildlife Park. Et donc vraiment c'était du management d'animaux. Donc c'était bouger des populations à droite, à gauche, les amener d'un endroit à l'autre. Et je m'occupais principalement de la reproduction. Donc on faisait des suivis de reproduction sur des espèces en danger. Et donc c'était vraiment des soigneurs. Et après il y avait différents niveaux de soigneurs. Et puis il y avait des gens qui s'occupaient de la réalisation des repas, etc. Mais à cette époque-là, c'était pas des chercheurs. Après, j'ai eu un travail où j'employais des chercheurs. Mais là, les 120 qui venaient plutôt d'Inde, du Pakistan et d'Afghanistan, c'était vraiment des soigneurs.
Tu fais combien de métiers différents quand t'es aux Émirats? J'ai l'impression qu'il y en a quand même plusieurs. Tu m'as parlé de consultants, de travail pour le gouvernement. Celui que tu viens d'évoquer là est celui de chercheur.
Le Align Wildlife Park, c'est le gouvernement. Donc ça, c'est qu'on travaille pour le gouvernement. Et bien que je travaille sur les projets, que je voulais travailler plus sur les projets de conservation, etc., etc., on est quand même appelé à enquêter sur des épidémies parce que ces animaux tombent souvent malades, ou tombent pas souvent, mais tombent malades. Et donc déjà là, je commençais déjà à collecter des données. Et après, quand j'ai travaillé en tant que consultant, c'était un peu le même travail, un peu pour les mêmes personnes. Mais au lieu de travailler que pour le gouvernement, je pouvais aussi, d'Abu Dhabi, je pouvais aussi travailler pour Dubaï, Sharjah, Ras El Khaimah. Et donc, je faisais la même chose, mais je faisais ça pour les 7 Émirats et à mon compte. Donc, en fait, c'est le même travail. Ça, on dirait que c'est beaucoup de métiers. Mais en fait, c'est le même, sauf qu'à un moment, j'ai commencé à le faire à plus grande ampleur.
D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'as parlé du PRAC académique, j'aime beaucoup ce terme, est-ce que tu y es à ce moment-là, est-ce que tu as le bon ratio entre le terrain et puis le côté académique des choses?
Alors je pense que c'est à ce moment-là où j'avais le meilleur ratio, parce que j'étais sur le terrain et mon travail académique, je me contentais d'écrire des articles. Et donc là, j'étais plus practitioner et j'étais un petit peu académique. Alors que maintenant, j'ai l'impression que je suis plus académique et un petit peu practitioner. Ça dépend vraiment des projets que je fais et j'ai l'impression que maintenant mes practitioners sont plus mes chercheurs ou mes thésardes qui ont la plus de chance d'être sur le terrain. Des fois, je les envie un peu, je suis un peu jalouse, je me dis oh là là, ils font des super projets sur le terrain. Et moi, je suis plus en train d'essayer de gérer des fonds. M'assurer que les stakeholders sont contents, etc. Donc j'ai l'impression que j'ai un travail qui est plus d'académique que de practitioner maintenant. Encore que de gérer des équipes, c'est aussi du practitioner, mais moi j'aime bien être sur le terrain. Je pars à peu près tous les ans un mois en Afrique pour faire du travail de terrain et en fait chaque fois je me dis ah bah vraiment c'est ça que j'aime.
C'est ce que tu kiffes. Tu m'as parlé au tout début, ton tout premier projet de ton beau-père, donc j'imagine que ça faisait déjà un petit temps que t'étais avec, je sais pas si t'étais déjà ton mari à l'époque, mais en tout cas ton futur mari. Il est vétérinaire aussi, il te suit, comment ça se passe, tous ces voyages en étant en couple?
Il est vétérinaire, oui, je peux dire qu'il me suit, j'ai vraiment énormément de chance parce que il est ultra méga flexible. Donc, il a travaillé en mixte au début, puis après, on est arrivé à Londres, alors qu'il parlait pas beaucoup anglais. Il s'est mis à parler anglais pour travailler à Londres. C'était plus pratique quand même. Et là, il a fait de la canine et beaucoup de chirurgie et vraiment, voilà. Mais il s'est vraiment beaucoup amusé. On est resté 3 ans à Londres au total. Et puis après en Afrique, bah là, il est juste venu voir en vacances. Et après aux Émirats, donc on a une période où on n'était pas, enfin il a pas pu venir, il attendait de voir que ça se passe bien aux Émirats, donc je pense qu'on a été séparés pendant 6 ou 7 mois, le temps que je m'installe aux Émirats, et là il est venu, et là à ce moment-là il n'y avait pas de travail, et puis pour finir il a trouvé un travail dans la faune sauvage avec certains de mes collègues, et donc là il s'est mis dans une nouvelle branche, il a commencé à faire beaucoup plus d'épidémiaux, parce que quand on fait de la faune sauvage là-bas en fait c'est quand même beaucoup de l'épidémiaux aussi. Et puis mais de l'épidémiopratique, hein, le fil d'épidémiologie. Et puis quand je suis venue en Australie, bah il m'a suivi aussi, et là il est devenu académique, il est devenu chercheur. Et voilà. Donc oui, j'ai beaucoup de chance parce qu'il s'adapte à toutes les situations, et une fois quelqu'un lui a dit oh là là, t'as un CV un peu décousu, et il avait dit mais en fait ce qui manque c'est l'autre partie du CV, c'est de ma femme. Pour qu'on comprenne pourquoi je vais de droite et de gauche et d'un pays à l'autre.
C'est super. Parce qu'il y a eu des enfants dans tout ça aussi pendant toutes ces pérégrinations.
Il y a eu des enfants, on en a deux. On a Eva et Adrien. Et les deux sont nés aux Émirats. Et alors après, j'avoue qu'aux Émirats, il y a quelque chose. Alors ça fait très riche quand on le dit, mais c'est vraiment toutes les familles ont des nounous aux Émirats. Et donc, on avait une nounou avec qui on est encore en lien. Quand on est parti en Australie, on a essayé de la faire venir avec nous parce qu'elle était, on est vraiment très attachés à elle et je pense qu'elle est assez attachée à nous aussi. Et malheureusement, on pouvait pas, là. On n'a pas réussi à avoir un visa pour elle. Mais donc, oui, on avait une nounou qui nous aidait beaucoup et ça m'a permis de continuer à travailler malgré les enfants parce qu'en fait, dans tous mes déplacements, j'avais les enfants et la nounou qui venaient avec moi. Et aux Émirats, justement, ça c'est quelque chose qui est, je sais pas si ça allait encore, mais à l'époque, c'était complètement accepté. Donc, je partais en voyage de travail et on me payait mon billet et celui de la nounou et des enfants. Et il n'y a jamais eu de question.
Ah, c'est fabuleux.
Et alors maintenant, je continue en Australie. Ils viennent avec moi encore sur le terrain. Et j'ai senti au début que ça choquait un peu. Je sais pas si le mot choquer, c'était vraiment le bon mot, mais que ça interpellait. Mais en fait, quand on le dit comme une évidence et qu'on dit qu'il n'y a pas d'autre solution, j'ai l'impression que tout le monde s'est très bien adapté. Au point que, en fait, moi, mes enfants, quand ils voyagent avec moi sur tous mes projets, qui sont des projets facultaires, l'assurance de la faculté les assure aussi. C'est-à-dire que s'il y avait un moindre problème sur un des enfants, il serait aussi électrocuté ou il serait amené dans l'hôpital, etc. Enfin, tout est couvert. Donc, en fait, ouais, et ça, c'est quelque chose que je dis parce que je pense que c'est vraiment important que toutes les femmes qui veulent travailler mais qui veulent aussi avoir une vie de famille mettent un peu les pieds dans le plat et disent bah voilà on veut le faire mais c'est comme ça qu'on va le faire parce que sinon c'est juste pas possible. Alors je dis pas que c'est forcément facile parce que quand ils sont petits sans nounou je pense que ça aurait pas été possible. Mais maintenant qu'ils sont plus grands, moi j'ai des enfants, je trouve qu'ils s'adaptent bien sur le terrain. Et maintenant j'amène mes enfants et des étudiants sur le terrain et des fois je trouve que mes enfants sont en plus de sens commun que certains de mes étudiants.
Ben, ils sont peut-être plus dans l'intuition.
Ouais, ou peut-être qu'ils l'ont vu plus souvent et que pour eux, c'est pas nouveau, alors que pour d'autres, c'est nouveau.
Ouais, donc, voilà. Peut-être. Mais merci d'évoquer ça parce que, ouais, je pense que c'est un gros frein qu'on se met nous-mêmes. Hein. Je pense qu'avec beaucoup de croyances limitantes, on n'ose pas, on se dit ah ben si on dit ça, on n'aura pas le boulot ou on nous dira non, on sera mal vu, etc. Et en fait, parfois, amener les choses plutôt comme une affirmation qu'une question, ou bien une question bien amenée avec une vraie construction de pourquoi on a besoin que les choses se fassent comme ça. Eh bien, ça permet de dénouer et d'ouvrir beaucoup de possibilités. Tu es un bon exemple. Donc, ouais, merci de souligner ça.
Je pense que des fois, il faut même pas poser la question, en fait. Je pense qu'il faut le faire et montrer comment on le fait. Mmh. Parce que si on pose la question, les gens qui savent pas vont dire non, c'est pas possible. Surtout qu'il y a quand même beaucoup d'enfants l'idée des gens qui ont pas d'enfants et qui disent on va amener un enfant sur le terrain, c'est que l'enfant va faire n'importe quoi, va crier, va se faire mal, etc. Mais quand on commence à amener les enfants et qu'on dit voilà, c'est comme ça que ça se passe et tout va très bien, les gens doivent réaliser, enfin ils réalisent forcément, bah oui, en effet, il y a pas de problème. Et des fois je me dis en fait, faut leur montrer avant de poser la question. Et comme ça au moins là, ils partent sur des faits au lieu de passer sur des hypothèses.
Oui, un peu les mettre devant le fait accompli en fait.
Un peu ça, oui.
C'est son côté battante et et entrepreneurial qui revient là.
Mais sinon, ça aurait pas été possible. Hein. Sinon, j'aurais pas du tout pu avoir ma carrière, ça c'est sûr.
Ouais. Les Émirats, t'es basé où? Ton camp de base, il est toujours le même ou il bouge?
Non, on était basé à Al Ain. Alors Al Ain, c'est à la frontière c'est la frontière omanaise, près d'une ville du côté omanais qui s'appelle Bourlemi. Alors Al Ain, c'est la deuxième plus grosse ville de l'émirat d'Abu Dhabi. Donc quand on dit les Émirats arabes unis, en fait, c'est 7 émirats. Les deux plus connus, c'est Dubaï et Abu Dhabi, mais il y en a 5 autres. Et donc nous, on était basés à Abu Dhabi, mais dans une ville qui s'appelle Al Ain. Alors j'aimais beaucoup Al Ain parce que c'était déjà près de Oman et j'adore Oman. Oman, c'est des montagnes fabuleuses, des canyons incroyables à visiter. La côte est aussi très belle avec le passage des requins baleines en été. Les gens sont formidables et donc j'aime beaucoup la culture omanaise, j'aime beaucoup le pays. Donc on était vraiment à la frontière. Et puis du côté d'Al Ain, il y avait aussi des trucs sympas et c'était une ville beaucoup plus locale. Donc il y a beaucoup moins d'expats, en tout cas d'expats blancs à Al Ain, et je trouvais que culturellement c'était enrichissant.
Est-ce que les cultures se mélangent ou est-ce que vous restez principalement entre expats pendant ton temps là-bas? En dehors du travail, hein, je parle.
Alors, je pense que j'aimerais tellement dire que les cultures se mélangent, mais ce serait faux. Non, je pense que notre zone de confort, c'était des expats. Alors, c'était pas forcément des expats français, mais c'était quand même des expats, ce que j'appelle les westerners. Ça veut pas dire qu'on n'était pas aussi invités à déjeuner ou à dîner avec des locaux, qu'on n'a pas été à des mariages locaux, etc. Mais il y en a même quelques-uns avec qui on a encore contact, alors que ça fait maintenant 6 ans et demi qu'on est partis. Donc on a gardé contact, mais je sais, c'est pas un mélange de cultures. C'est, je pense, des individus qui s'apprécient et qui, malgré les différences culturelles, arrivent à se comprendre. Parce que quand même, c'est des gens qui avaient voyagé et qui avaient avaient peut-être des références un peu similaires. Donc c'est pas un mélange de cultures. C'est-à-dire qu'on peut faire des amis, mais je sais pas si les liens sont aussi profonds qu'avec les amis expats qu'on s'est fait là-bas. On est quand même, enfin. Oh, je cherche jamais à rentrer vraiment en contact avec des expats français, mais quand même là-bas, mais nos deux enfants sont nés et le parrain d'Adrien est un Français, Xavier, qu'on a rencontré là-bas. Donc voilà, c'est.
Parce que culture trop différente, tu penses?
Parce que culture, ouais, vraiment. Enfin, par exemple, avec mes collègues afghans. Et pourtant, je les aimais beaucoup et je pense qu'ils m'aimaient bien aussi. Ils m'ont fait des magnifiques cadeaux. Je voulais pas qu'ils m'offrent tout ça quand mon fils est né et quand je suis partie, encore moins. Mais les références, ouais, c'était vraiment difficile. Alors, je vais vous donner un petit exemple, mais on parlait des femmes qui se faisaient lapider et vraiment, ça c'est quelque chose. Enfin, je peux pas le comprendre, je peux même pas, c'est quelque chose, je peux pas le conceptualiser. Et eux, pour eux, ça leur paraissait pas complètement anormal. Et donc voilà, c'est ce genre de choses. Déjà, on n'est pas sur les mêmes références du tout.
C'est dur pour toi, ce genre de choses, où tu fais abstraction complètement quand t'es là-bas?
Mais ce qui est dur, c'est de voir des gens qui sont formidables. avec qui on peut quand même rire et avec qui on a des rapports humains qui sont chaleureux et qui sont dans l'entraide aussi, enfin qui peuvent vraiment aider, etc. Et qui sont touchés par et qui sont aussi généreux entre eux et même avec d'autres, enfin même avec d'autres communautés. Et donc en tant qu'humain, on se dit bah on est tous pareils, mais que parfois ils disent quelque chose, on se dit ah mais en fait il y a une différence qui est énorme. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas tolérer. Et je me dis que peut-être que si j'avais rencontré des Français d'il y a 300 ans et qu'on parlait de la peine de mort, eh ben peut-être qu'on aurait le même débat. Je me dirais, ben en fait, c'est pas un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème culturel, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes références à certains moments et à certaines dans certains pays. Enfin, des fois, je me dis, aux États-Unis aussi, ils ont encore la peine de mort et pourtant, c'est considéré comme être un peuple éduqué, avancé, etc. Donc, oui, je trouve que c'est dur, mais c'est pas que dur aux Émirats. Je trouve que c'est dur partout dans le monde.
Comment ça se passe la suite? À quel moment tu te dis je vais aller en Australie, c'est une opportunité de travail, j'imagine.
Oui, alors à ce moment-là, j'étais vraiment dans le One Health. Là, c'est aux Émirats. Je pense que c'était les dernières années aux Émirats, c'était pas un concept. J'étais dans le One Health, c'est d'une façon très très pratique. Et je pense que je souffrais un peu de pas avoir de ce que j'appelle de famille scientifique. Donc, je faisais mes projets, je faisais mes publications, je faisais ma thèse, etc. Mais j'étais limitée un peu dans les contacts que je pouvais avoir d'un point de vue recherche parce que quand on travaille sur cette maladie qui ont un impact politique, on peut être amené à ne pas pouvoir partager certaines choses et être un peu discret sur nos travaux. Et donc j'ai commencé à sentir ces limitations et je me suis dit que c'était voilà, que je voulais faire plus de recherches et de façon encore plus poussée. Mais que je voulais le faire pas que sur la santé animale, mais vraiment sur la santé animale, écosystème et humaine. Et donc, c'était du One Health. Et à l'époque, il y avait que des postes de One Health aux États-Unis et en Suisse. Ça a commencé à se développer. Et puis, mais il y en avait très très peu. Hein, ça se comptait sur moins de, les doigts de la main d'Iti, quoi. Et donc, quand cette opportunité à Adélaïde s'est présentée, je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment. Donc, c'était un poste d'académique One Health, et donc ce serait peut-être le bon moment de voir si je pouvais être prise. Et donc j'ai passé les entretiens, j'ai eu de la chance et je l'ai eu. Et donc voilà, je me suis embarquée dans cette aventure-là.
C'était quelle année, ça?
C'était en 2017. Je suis arrivée en décembre 2017.
Est-ce que tu peux donner une définition ou ta définition de One Health à ce moment-là? Parce que j'imagine potentiellement ça a évolué encore depuis, ou on est toujours sur la même définition.
Alors, ma définition, elle n'a pas tellement évolué. Et j'avais déjà écrit un article à cette époque-là dans ma thèse, justement sur ce principe-là. Et maintenant, elle évolue un peu à l'échelle mondiale, mais c'est encore un peu similaire quand même. Alors, la définition en termes simples, c'est l'interconnexion entre la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine. Alors, les gens prennent beaucoup les maladies zoonotiques, donc les maladies qui peuvent se transmettre des animaux aux hommes et vice-versa, comme un exemple, ou les maladies émergentes, en montrant que voilà, si l'homme est en contact avec l'animal, quelles que soient les activités qu'on fait, hein, on a un risque de maladie accru, et donc il faut essayer d'endiguer ce risque de maladie. Alors moi, mon problème avec ça, c'est que il parle que des maladies infectieuses et zoonotiques, et que je pense que One Health, c'est beaucoup plus large que ça, et ça touche aussi les maladies chroniques. Par exemple, les maladies chroniques qu'on a à cause de la pollution, c'est aussi complètement dans le cadre de One Health. Et je vais plus loin, c'est que je pense que pour l'instant, dans ce paradigme, on met que santé animale, santé environnementale et santé humaine. Mais ce qui est vraiment important, c'est quels sont les drivers, quels sont les leviers. Et ça, là, il faut qu'on commence à parler de du commerce. Il faut qu'on commence à parler de toute notre utilisation des sols. Il faut qu'on commence à parler du urban planning. Donc, il y a plein de choses dont qu'il faut intégrer dans One Health, et c'est pas que la santé. Il faut vraiment étudier les déterminants de la santé. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une approche très globale, mais qui ne se focalise, enfin, qui ne devrait pas avoir comme unique interlocuteur les départements de santé animale, environnementale ou humaine, mais aussi tout ce qui détermine notre santé, notre santé si on veut dire One Health.
Et ça, c'est la définition vers laquelle on évolue aujourd'hui.
Voilà, c'est les activités humaines. Alors, c'est la définition dans laquelle on évolue, mais je trouve qu'on est un peu lent à vraiment se focaliser sur la prévention. La prévention de ces maladies infectieuses ou non infectieuses, hein, liées à nos activités anthropogéniques. Et ça, c'est un peu délicat, parce que je pense qu'en fait, là, on commence à toucher à l'économie, on commence à toucher au commerce, on commence à toucher à notre sécurité, à notre défense, etc. Et donc, c'est des interlocuteurs qui n'ont pas forcément envie de changer leur business as usual.
Oui, ben voilà. T'as répondu à mes questions, j'allais te demander à ton avis pourquoi une lenteur, et bon, ouais, clairement, comme d'habitude, des implications économiques et politiques.
Mm-hmm. Mais après... On est tous un peu coupables. Hein. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Et au final, peu de gens veulent vraiment changer leur façon de consommer. Et je me dis que si on commençait à prendre en compte l'impact environnemental et l'impact social de chaque produit qu'on achète, eh ben on n'achèterait plus ce qu'on achète, les t-shirts pas chers, etc., qui viennent du Bangladesh, ou quand on jette que ce soit des habits ou du plastique, et qu'on sait que tous ces containers pleins de déchets partent en Asie, on contribue aussi à cette problématique mondiale, mais on la change pas, même à l'échelle individuelle. Donc c'est ça, je sais pas. Il faudrait. J'ai une émission que j'écoute souvent, que j'ai trouvé vraiment très bien, qui s'appelle Chaleur humaine, qui est produite par Le Monde. C'est un podcast qui est intéressant et qui justement qui parle de ce genre de problématiques. Et je pense que c'est une bonne base de réflexion pour tous.
Ben merci, on mettra le lien dans le synopsis. Est-ce que tu ne penses pas, je rebondis sur ce que tu disais, alors ça doit exister, mais et bien sûr, on gravite toujours dans un certain cercle de personnes, mais j'ai rarement rencontré des gens qui vraiment... n'en ont rien à faire. Souvent, je rencontre des gens qui manquent d'informations face à ce que aux choses que tu avances. Donc, ne connaissent pas forcément les implications des produits qu'ils achètent. Et mon commentaire serait de dire ce manque d'informations vient aussi de rétention d'informations souvent, on met beaucoup de responsabilités sur l'individu aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de culpabilisation. Et mon ressenti, c'est qu'il y a quand même de la marge de travail au niveau des décideurs ou en tout cas des grands groupes. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a... Quand on veut informer les gens, on peut quand même. Après, des fois, il y a le problème d'un volume d'informations qui est tellement énorme que... Les gens ne savent plus qui croire, quoi croire, et certains tournent complotistes, etc. Donc non, je suis d'accord, mais je pense que c'est là où la société civile et les chercheurs et les ONG, etc. ont peut-être un rôle à jouer, parce que les décideurs en fait répondent aux pressions quand même médiatiques. Je pense que la force la plus importante qu'on est, c'est les médias. Et en fait, j'ai l'impression que c'est triste, hein, mais que nos décideurs répondent aux médias. Et c'est là où nous, en tant que chercheurs et société civile, on a aussi un peu, et donc société civile, chercheurs et ONG, on a peut-être notre un travail encore à faire plus important. Je salue par exemple le travail de WWF, le World Wildlife Fund, qui a quand même mis en exergue les problèmes de conservation à l'échelle globale depuis plusieurs décennies. Et je pense que eux, alors c'est peut-être une approche un peu marketing au début qu'ils ont eu, de montrer vraiment la, enfin, marketing, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas dans, dans le sens négatif du terme. C'était vraiment de sensibilisation.
Mise en avant.
Et ils l'ont très bien fait. Je pense que les gens maintenant ont beaucoup plus conscience de des enjeux de conservation sur beaucoup d'espèces grâce à WWF. Donc oui, les décideurs et les grandes entreprises, c'est sûr. Malheureusement, pour les faire bouger, vu que leur temps au pouvoir est assez court, et de s'attaquer à ce genre de problématique, en fait, il faut les temps longs. Et c'est souvent pas très vendeur de dire aux gens, vous allez devoir moins consommer, on va vous faire acheter des produits plus chers, etc. Donc c'est souvent un problème, à mon avis, qu'ils veulent plutôt refouler au prochain, qu'ils le refilera aussi au prochain. Donc je pense que notre système, alors pourtant je suis très pour la démocratie, mais notre système démocratique va peut-être pas avec les enjeux auxquels on est confronté, les enjeux en tout cas environnementaux auxquels on est confronté. Et là, ce qui se passe en France, je vais pas faire de politique, mais voilà, le problème des pesticides, il est quand même réel, et j'espère qu'on va pas trop reculer.
Oui, c'est question de se refiler un peu la patate chaude, comme tu dis.
Exactement.
Si j'interprète ce que tu dis, ou je traduis, tu me diras si j'ai tort ou pas, il y a certaines questions sur lesquelles il faudrait trancher, plutôt que de laisser le choix aux gens.
Oui, je pense que sur les questions environnementales, il le faut. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir un parti vert. Il faudrait que le vert soit dans toutes les décisions, quel que soit le parti au pouvoir. Et je pense que on a quand même des comités scientifiques en France qui sont tip-top, avec des rapports qui sont vraiment bien étayés, etc. Alors, ils n'ont pas un pouvoir décisionnel, mais normalement, ils sont là pour guider les décisions. Et de pas les écouter et de pas trancher en fonction des données qui sont disponibles et relayées par des experts, c'est gravissime, ouais.
Ben, c'est là où on sait qu'il y a la confrontation avec les lobbies qui sont plus ou moins forts en fonction de de l'économie.
Ouais, mais bon, quel pouvoir veut-on donner aux lobbies? Ça, évidemment, oui, ils le prennent, leur pouvoir, mais ça, pour le coup, c'est vraiment politique.
Ouais, exactement, exactement. Ok, bah trêve de parenthèse économique et politique, mais c'était important et on y reviendra peut-être hein, sur le sujet Australie. Mais revenons à ton poste. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un poste que tu as créé. Qu'est-ce qu'on t'a vendu comme poste quand tu es arrivé?
Alors on m'a vendu que j'avais une charge d'enseignement qui était sur le wildlife management, donc le management de la faune sauvage et la santé, qui inclut la santé. Et que j'allais aussi créer le curriculum One Health pour les dernières années vétérinaires. Donc ça, c'était excitant parce que c'était la première fois que c'était créé en Australie. Puis à l'époque, il n'y avait pas tellement de curriculum One Health qui était créé n'importe où dans le monde d'ailleurs. Donc c'était oui, c'était vraiment un nouveau challenge. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'avantage de quand on est le premier à créer quelque chose, bah, c'est que, bon, ça peut servir de référence, mais aussi, bon, bah, personne peut vraiment dire, ah, bah, t'aurais pas dû faire ça ou t'aurais dû faire ça. Enfin, c'est les premiers. On peut toujours être attaqué, mais normalement, on n'est pas trop attaqué sur ce qu'on décide d'enseigner. Sur la recherche, j'avais déjà plusieurs thématiques qui étaient très, très One Health, qui incluaient déjà une approche globale de la santé. Donc ça allait du trafic illégal d'animaux. Alors là, j'ai commencé à travailler de plus en plus avec les douanes et les polices et même les polices internationales pour vraiment créer des outils et rassembler des informations ou de l'intelligence, on peut même dire, pour que eux puissent prendre action. Donc là, je me suis ressentie un peu plus practitioner qu'académique quand je travaille sur le terrain, sur ce genre de terrain là. Et puis après, je travaillais beaucoup sur ce que je faisais déjà aux Émirats, sur les passages de maladies faune sauvage à faune domestique ou vice versa. Donc oui, j'avais vraiment carte blanche et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a des gens qui préfèrent être guidés et qui se sentent plus soutenus s'ils rentrent dans un projet et qui suivent un peu un plan. Et en remarque, ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas comment je réagirais. Mais rapidement, moi j'aime bien créer. Quand j'étais plus petite, j'étais en terminale. On devait choisir nos options en bac et je me rappelle que moi j'étais en filière scientifique mais j'aimais beaucoup l'art et j'avais fait des pieds et des mains pour pouvoir continuer l'art. Et en fait j'ai l'impression que quand on est scientifique, on est très artiste. C'est en fait on crée des projets et on les développe. Au final c'est un travail d'artiste.
Alors je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Et pourtant, la société nous présente ces deux champs de compétences comme étant complètement antinomiques. Et c'est tellement dommage parce que clairement, quand on est scientifique, on est créatif, quoi. On est inventeur, on est entrepreneur. Et c'est dommage que ce soit si binaire encore aujourd'hui.
Ouais, mais je pense que c'est parce que la société a une idée du scientifique en tant que technicien. Qui voit un scientifique qui manipule des pipettes et qui a un travail de technique. Je pense qu'ils arrivent pas forcément à voir qu'un scientifique c'est quelqu'un qui déjà commence par une idée et puis après qui la développe.
Ouais, mais tu sais même la science, on l'oppose à la littérature. Tu vois, c'est des choses qu'on présente
ouais,
comme étant incompatibles. Qu'on est soit de cerveau gauche, c'est cerveau droit, alors qu'aujourd'hui les IRM montrent bien que c'est pas le cas. Enfin bref, je fais une parenthèse, mais merci de souligner ça.
Non, mais je pense que c'est vrai. Et là, je viens juste de finir un livre qui s'appelle Un fauteuil sur la scène de Amin Malouf, et donc il explique les différentes personnes qui sont succédées sur le fauteuil qu'il occupe à l'Académie française. Et c'est très très intéressant parce que je m'étais pas rendu compte du nombre de scientifiques qui était présent à l'Académie française de littérature. Donc c'est ce truc, c'était intéressant de voir que en fait c'est peut-être assez récent qu'on sépare science et lettres.
Oui, peut-être avec la révolution industrielle quand même, je pense.
Oui, peut-être que t'as raison, parce que c'est ça qui a fait qu'on a commencé vraiment à travailler en silo.
Vous attendiez pas un podcast philosophique. où est-ce qu'on en était? Ah oui, ton job que t'étais en train de créer et que tu aimais ça, voilà. Tu disais justement ce côté créatif qui te plaît. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de, tu parlais d'outils que tu as développés avec les autorités. Est-ce que tu peux nous donner un exemple?
Ah ben, je vous donne un exemple là. Alors ça, c'est un exemple vraiment très, très récent. J'ai approché une compagnie qui s'appelle la CMA-CGM, qui sont un gros transporteur de containers, je crois que c'est le deuxième mondial, parce que le trafic illégal d'animaux se fait évidemment par air, mais principalement par containers, vu les volumes qui sont transportés. Et seulement 2% des containers qui voyagent sur le globe sont contrôlés. Évidemment, ils sont plutôt contrôlés pour de la drogue, des armes, des matériaux dangereux comme les matériaux radioactifs, etc. C'est surtout drogue et armes. Et donc, le trafic illégal d'animaux, c'est pas une priorité. Et puis en plus, ce sont des conteneurs qui sont scellés. Et donc, quand on veut commencer à ouvrir quelque chose, c'est une procédure. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un ordre pour l'ouvrir et puis ouvrir le conteneur et puis là les douaniers doivent extraire tout ce qu'il y a dedans, etc. Alors ça se fait, hein, on a pas mal de saisies à Hong Kong ou dans différents pays où on voit des saisies de des cailles de pangolins ou d'ailerons de requins, etc. Mais à mon avis ça se fait très peu par rapport au volume qui transite. Et donc on a travaillé avec la CMA et alors c'est la CMA est pas client là-dedans. La CMA est vraiment partenaire de ce projet. On a deux aspects du projet. On a développé un algorithme qui permet d'identifier quel conteneur est le plus suspicieux le plus suspicieux en termes de mouvement de d'animaux sauvages. Enfin, non, c'est des morceaux d'animaux. C'est vu que c'est dans un conteneur, c'est forcément des animaux morts. Donc ça, c'est vraiment un algorithme mathématique qui a été élaboré avec eux et qu'on est encore en train de travailler là-dessus. Mais c'est un peu la même technique qui sont utilisées pour d'autres substances, d'autres commodités. Et puis, on a une machine qu'on est en train de développer qui extrait l'air des conteneurs et l'analyse. Alors, on a différents types d'analyses. C'est ADN environnemental, masse spectrométrie et chien détecteur. Donc, on analyse par trois différentes méthodes. Mais donc, on extrait l'air du conteneur sans ouvrir le conteneur. Et donc, ça permet de... Si on a un conteneur qui est suspicieux et qu'on veut rapidement voir s'il y a quelque chose dedans, ben, au lieu de devoir l'ouvrir, on peut extraire l'air. Et là, s'il est suspicieux et qu'en plus, quand on a extrait l'air et qu'on l'a analysé, on a ce qu'on appelle positive hit. Donc, on a quelque chose qui nous dit oui, on a deux sources, en fait, d'informations qui nous disent oui, là, il y a vraiment quelque chose. Là, les gens peuvent l'ouvrir et faire une enquête plus approfondie. Et donc, on espère que ça va permettre de, d'augmenter le nombre de conteneurs qui seront contrôlés.
Ouais, c'est super.
Donc, là, c'est un, et donc, là, c'est avec, on fait ça avec la CMA, mais aussi avec les douanes qui seront certainement un des premiers utilisateurs du produit. Et donc, d'ailleurs, pour cette machine qui permet d'extraire l'air du conteneur, on a travaillé avec les douanes australiennes pour être sûr que dans le cahier des charges, on a tout ce qui pourrait correspondre à ce que voudraient utiliser des douanes. Donc, quelque chose qui est portatif, quelque chose qui est pas trop lourd, quelque chose qui permet d'avoir l'analyse faite près du conteneur, parce que dès qu'ils doivent bouger l'endroit où ils prennent les échantillons, ça amène pas mal de complications et potentiellement la perte du conteneur. Ça, c'est particulièrement vrai sur des très très grands très très grands ports où il y a un mouvement incessant de conteneurs. Donc voilà, ça c'est voilà, c'est vraiment très concret. C'est développer un outil qui permettra d'endiguer ou en tout cas contribuer à endiguer le trafic.
En termes de chiffres, ça donne quoi le trafic illégal de viande là aujourd'hui dans le monde ?
Alors là, pour quand je parlais du conteneur, c'était pas forcément de viande. Hein. Je peux pas te donner de chiffres parce que alors on parle du trafic illégal, mais aussi le trafic légal. Hein. Honnêtement, il y a quelques ONG qui inventent des chiffres. Je pense que la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Alors il y a des chiffres faramineux qui sont ouais, qui sont donnés dans la presse. Je pense qu'on n'en sait rien, mais qu'on est certainement en toute la vérité. Je reviens d'Indonésie à Manado. C'était il y a deux semaines, là. C'est une petite anecdote. Alors, j'étais là-bas parce que j'entraîne les gens qui travaillent pour le ministère de l'Environnement et les prosécuteurs à prendre des échantillons, pour identifier les espèces et, pour pouvoir, présenter des cas en face à la cour pour que il y ait des procès des prosecutions, on dit ça prosecution en français,
je perds le mot maintenant, pas des plaintes, des mises en demeure, enfin des
enquêtes,
des procès, voilà, des procès,
voilà. Et pour être sûr que les alors, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que c'est que des vocabulaires que j'ai appris en anglais, chain of custody, donc que les éléments de l'enquête soient bien préservés, etc. Donc j'étais là-bas pour donner des cours à c'est aussi très concret et à ces gens du gouvernement et ils me disent est-ce que tu voudrais visiter un marché, un wet market à quelques minutes de là où on faisait le cours. C'était peut-être à une heure, peut-être à 40 minutes. C'était à Tomohon. Donc, on était dans une ville, qui avait encore un wet market. Et donc, j'ai été visiter. Et en fait, ils vendaient des chauves-souris, ils vendaient des pitons, ils vendaient du chien, ils vendaient, qu'est-ce qu'ils vendaient d'autres, du espèce de sanglier sauvage qu'ils avaient. Il y avait plus de primates parce qu'ils venaient juste d'avoir un arrêt sur les primates, alors pas du tout pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons de conservation, parce que c'est le primate qu'ils ont là, c'est le macaca negra, donc macaca negra qui est en voie de disparition. Donc là, le gouvernement avait dit on arrête de tuer les primates. Mais donc j'étais très étonnée que après le Covid, après tout ce qu'on sait, et ben en fait ces marchés sont complètement légaux et que voilà, il y a pas de, les normes sanitaires ont absolument pas changé. Et donc je me dis, on parle toujours du trafic illégal d'animaux, mais il y a aussi tout le trafic légal d'animaux. Et je pense que ça, voilà, quand on demande les volumes qui transitent, est-ce qu'on parle du légal, est-ce qu'on parle de l'illégal? Et honnêtement, je pense qu'on a aucune donnée ni sur le légal ni sur l'illégal.
Mais que c'est sans doute faramineux.
Ah bah c'est faramineux. Mmh. Il y a quelques papiers sur le légal qui sont passés, c'est faramineux. On a publié il n'y a pas longtemps un papier sur le trafic légal des primates pour les laboratoires de recherche biomédicale. Et on parle de centaines de milliers de primates qui bougent pour des, voilà, qui bougent dans les laboratoires, qui sont pris en Asie du Sud-Est. Et nous, ce qu'on mettait en exergue, c'est que la capacité de production du Cambodge était bien moindre de ce qu'ils exportaient réellement. Donc, ils exportaient un certain nombre. Je me souviens plus exactement, j'ai plus le papier en tête. Mais ils exportaient un certain nombre. Et en fait, on a montré que leur capacité de production était bien moindre que ce qu'ils exportaient. Donc, c'était sûr que ces primates viennent de quelque part d'autre. Alors, vu qu'ils disent qu'ils ne les prennent pas la nature et qu'ils importent pas, notre question était, d'où viennent-ils? Mais donc, oui. Donc, il y a le trafic légal qui sert aussi de loophole, de moyen, pour faire passer du trafic illégal, dans une chaîne légale. Enfin, qui paraîtra légale.
Mmh. C'est complexe, hein?
C'est complexe, oui. C'est complexe, surtout qu'on a peu de données, en fait. C'est vraiment, ouais. C'est vraiment ça la problématique.
Une espèce de toile d'araignée géante avec plein de parties inconnues.
Exactement.
Tu parles du Covid, tu étais en Australie pendant le Covid.
J'étais en Australie pendant le Covid, oui.
Comment ça se passe? Tu étais impliquée directement dans la gestion, dans les recherches?
Alors, ce qui s'est passé pendant le Covid, alors je vais faire juste une petite parenthèse. Avant le Covid, il y avait eu le MERS coronavirus. Et MERS coronavirus, j'étais à Al Ain, qui était l'épicentre du MERS coronavirus aux Émirats Arabes Unis. Alors là, c'était, j'avais travaillé sur, j'avais pris des échantillons sur les dromadaires, j'avais pris des échantillons sur les chauves-souris, on essayait de comprendre comment le virus allait de l'un à l'autre. Or, MERS coronavirus, c'était un virus qui se transmettait d'homme à homme, mais aussi on avait des transmissions de chameau à homme. Donc c'était vraiment pour moi une vraie zoonose, là, pour le coup. Par contre, ça tuait une personne sur trois. Donc, c'était beaucoup plus risqué. Et donc là, on n'a pas beaucoup publié. C'était un peu délicat comme environnement. J'avais senti que c'était un travail vraiment de terrain et qui avait un impact. Quand je suis arrivée en Australie, donc 2 ans après, trois ans après, on a eu le Covid. Alors là, j'étais un peu frustrée parce que je pouvais pas faire d'études de terrain. J'avais voulu regarder si, avant qu'on le sache, si les autres animaux, donc par exemple les chats et les chiens des gens contaminés, pouvaient être contaminés, mais ça avait été pas accepté en fait par le gouvernement. Ils voulaient surtout pas qu'on, à ce moment-là, c'était un peu compliqué de faire ce genre d'études. Et je me suis retrouvée dans une position où en fait, ce qu'on avait dans les donc j'avais peu de choses à faire. Tous mes projets de recherche qui impliquent pas mal de mouvements et de déplacements sont tombés à l'eau. Et je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, il parlait de ces tests PCR où il manquait de réagents, de produits pour faire le test. Et donc, qu'il y avait des gros délais pour voir si les gens étaient positifs ou négatifs. Et je me suis dit, mais il faudrait absolument que je trouve un moyen pour travailler sur un autre système de détection des positifs et des négatifs. Et j'ai été en contact, alors depuis que je suis aux Émirats, je connais le professeur Dominique Grandjean, et je l'ai contacté pour savoir s'il y avait quelque chose sur lesquels il travaillait, parce qu'il travaillait sur les chaînes détecteurs, s'il savait si ça marchait. Alors à l'époque, il n'avait aucune donnée, mais il m'a dit, on a fait juste quelques tests pour savoir si le chien peut détecter le Covid, et ils peuvent. Ils peuvent détecter la transpiration des personnes qui ont le Covid versus les personnes qui n'ont pas le Covid. Et donc, j'ai monté un projet similaire à ce que Dominique Grandjean a fait en France. Et alors moi, je l'ai fait un petit peu différemment parce que j'ai eu la chance d'avoir les Australian Border Force, donc c'est les douanes australiennes qui ont beaucoup 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 de chiens. Ils ont plus de 300 chiens et ils ont dit OK, on est partant sur ce projet, on va te mettre des équipes de chiens, donc des équipes cynophiles, on va te donner des chiens et puis tu vas les entraîner. Et donc le but, c'était après qu'on déploie ces chiens à l'aéroport, ce qu'on a fait à l'aéroport de Sydney et à l'aéroport d'Adélaïde. Et donc vraiment un super projet de recherche. Alors là, c'était avec les, donc on avait ABF qui était le, donc Australian Border Force, qui était l'entité qui nous vraiment nous fournissait les sous, les chiens et les équipes cynophiles. Et puis on avait le support de du ministère de la Santé. Et on avait aussi le support de la France et des Émirats Arabes Unis qui nous ont envoyé des échantillons au début pour qu'on entraîne nos chiens. Parce que nous, on n'avait pas assez de cas de Covid en Australie pour entraîner nos chiens. Donc, alors ça n'a pas été facile. Hein, je fais l'histoire rapidement, mais ça c'est fait. Et puis après, on a eu, je pense que la seule fois de ma vie où j'ai pleuré de bonheur au travail lié à une de mes recherches, c'est qu'on a commencé à travailler avec l'Institut Pasteur en France et Dominique Grandjean sur une ce qu'on appelle une training aid, un leurre. Pour entraîner les chiens sans avoir besoin de la sueur de gens positifs, parce qu'au début on les entraînait en leur faisant sentir de la sueur de gens positifs, en leur expliquant que ça c'est positif, et donc à chaque fois qu'ils ont ça, il faut qu'ils s'assoient. Et puis on a développé un leurre. Et quand les premiers chiens qu'on avait entraînés que sur leurre, donc ils n'avaient à sentir rien d'autre que du leurre de personnes positives versus rien. Et on leur a donné des échantillons de personnes positives qui étaient dans les médi-hôtels, parce qu'en Australie, quand on arrivait, on pouvait pas directement aller chez soi, on devait passer 15 jours à l'hôtel. Et dans ces hôtels, on prenait des échantillons aux gens à tous les X jours, tous les 3-4 jours. Donc on avait leurs échantillons de sueur, et on a donné ces échantillons de sueur à des chiens qui n'avaient été entraînés que par ces leurres, qui est donc c'est quelque chose qu'on produit. Et c'est ce chien, ce premier chien qui s'est assis. On m'a envoyé la vidéo parce que ça, c'était à cette époque-là. Donc, c'était ABF qui faisait l'expériment. Je voulais être enlevée de l'expériment pour pas dire que j'avais biaisé quoi que ce soit. Et le premier chien qui s'est assis devant la personne positive, ça a été, c'est la première fois, je pense, que j'ai pleuré de joie en me disant, ça marche. Et donc, après, on a continué à déployer ces chiens. Alors, plus à l'aéroport parce que là, le Covid était bel et bien rentré en Australie. Mais on l'a déployé au service d'urgence de l'hôpital d'Adélaïde. Et ça a très bien marché. L'hôpital Elizabeth d'Adélaïde. Et donc voilà, c'était ma petite contribution sur le Covid. On a continué après parce que on a entraîné des chiens pour voir. Donc là, le Covid, c'était un virus. Donc on s'est dit, ah ben, ça marche bien. Est-ce qu'on peut faire un training aid pour une autre maladie qui s'appelle la fièvre Q? Alors Q, c'est... La lettre Q, hein, c'est pour Query Fever. C'est lié à une bactérie qui s'appelle Coxiella burnetii. Et on a entraîné donc ces mêmes chiens pour trouver cette bactérie. Et ils arrivent aussi à la trouver. Et donc maintenant, on a un petit programme quand même de chiens détecteurs de maladies. Et on va continuer sur les maladies infectieuses parce que je trouve que c'est quand même vraiment fascinant. Qu'on puisse détecter des composés volatiles organiques. Et qu'en fait, ça soit une trace d'une infection, et qu'on puisse utiliser ça comme test. Alors, aucun test n'est parfait, mais la PCR n'est pas parfaite non plus. Le RAT test, le test antigénique n'est pas parfait non plus. Et donc, nous, ce qu'on préconise, c'est de faire plusieurs tests. Ce qu'on a vu, c'est que les chiens détectaient les gens positifs, et ça, on a beaucoup d'exemples. On est en train de travailler c'est un énorme papier, donc il va peut-être un jour partir quand même, parce qu'il est, c'est un très très gros papier dans un très gros journal, mais que nos chiens détectaient les gens positifs avant la PCR. C'est quand même assez incroyable.
Ouais, c'est incroyable. Petit projet. Je sais pas si j'aurais mis cet adjectif-là. Je trouve ça vraiment formidable.
Oui, non, enfin, c'était un gros projet. J'ai travaillé, je crois que je n'ai pas compté mes heures, mais c'était des grosses journées de plus de 12 heures. Chapeau bas à mon mari, parce que là, à ce moment-là, il a géré absolument tout à la maison. Alors nous, on a eu vraiment beaucoup de chance, c'est qu'en Australie, ils n'ont pas fait de très longs lockdowns. Et vu que je travaillais sur ce projet-là, mes enfants avaient le droit de continuer à l'école. Mais si on avait dû faire l'école à la maison, en plus, ça aurait pas été gérable. Ouais. Mais ouais, c'était un beau projet. Et On a vraiment eu la chance d'avoir un support du gouvernement en Australie, parce que déploiement à l'aéroport et déploiement à l'hôpital, c'était vraiment une... C'est montre que la recherche peut être appliquée, et même dans des situations critiques. Alors évidemment, on a vu que la recherche pouvait être appliquée avec les vaccins. Mais là, sur la détection d'une maladie, et montrer qu'on peut utiliser le sens de l'odorat pour détecter des maladies, pour moi c'est une révolution, hein. Enfin vraiment, je me suis dit c'est une révolution. On le savait un peu, hein, parce que il y a 2000 ans, donc dans les carnets d'Hippocrate, il disait à ses élèves de sentir, et il parlait de plusieurs maladies qui peuvent que les gens peuvent goûter. Alors il faisait faire goûter le vomi, etc. Ça, honnêtement, je le ferais pas, mais il leur demandait de sentir. Donc il leur disait déjà en tant que médecin d'utiliser leur sens de l'odorat. Alors après, je peux comprendre que pendant 2000 ans on est un peu arrêté parce que c'est pas très ragoûtant, mais d'utiliser le chien pour sentir et déterminer si les gens sont malades ou pas, je trouve que voilà, c'était bien revisiter les principes d'Hippocrate.
Ouais, complètement. Et avec une finesse beaucoup plus grande que celle de l'olfaction humaine en plus. Et puis le fait que ce soit déclinable, ça c'est génial. Et puis potentiellement plus précis, ça c'est encore mieux, quoi.
Ouais. Alors c'était plus précis. En tout cas, nos chiens sont plus précis en début d'infection que la PCR, et moins précis en fin d'infection. Donc en fait, on pense que les chiens sont capables de détecter quand la personne est en infection active. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une réplication virale, mais pas quand on est en... Alors, on peut toujours avoir un PCR positif quand il n'y a plus de réplication, parce qu'on a encore un peu de gène de virus qui est là. Mais donc, on pense que le chien est vraiment sur la réplication. Et on ne sait pas encore exactement tout ce qui est sang, mais oui. Et ça n'a pas été fait qu'en France et en Australie, hein. Et l'équipe belge a fait un super travail, aux Émirats aussi. Enfin, au final, je crois qu'il y a une trentaine de pays qui s'y sont mis. Et pour ça, Dominique Grandjean avait fait vraiment un travail formidable. Et de partage d'informations aussi, à un moment où c'était pas forcément... c'est un peu malheureux, mais des fois, les chercheurs sont pas du tout dans le partage, ce qui était pas son cas.
C'est quelque chose que tu rencontres, toi, dans le milieu dans lequel tu gravites, ce non-partage d'infos?
Alors, je vais en dire oui et non, parce que en fait, moi, je suis assez dans le partage aussi. Et très rapidement, je pense que quand je suis avec des gens qui n'ont pas la même vision, au final, on arrête d'échanger. Donc, j'ai la chance d'être plutôt avec des équipes où on partage bien. Alors des fois c'est compliqué sur certains projets parce que il y a la propriété intellectuelle et que je suis dans un milieu anglo-saxon, et donc l'université fait quand même bien attention que notre propriété intellectuelle soit bien gardée, et donc il m'arrive des fois de me faire tirer les oreilles en me disant mais dis donc t'as pas fait signer un papier de alors ils appellent ça NDA, je sais plus ce que ça voulait dire.
Oui, non-disclosure agreement. Ouais, c'est de confidentialité.
Agreement. Voilà, exactement. Et donc ils me disent mais donc ton papier de NDA a pas été signé, etc. Je dis ah bah oui, bah c'est pas grave. Mais donc voilà. Après je pense que c'est un peu culturel, ça, honnêtement. Je pense que
oui.
Je pense que c'est une différence culturelle.
Un côté un peu procédurier aussi.
Oui. Mm-hmm. Ouais.
Tu enseignes aussi pendant le Covid, tu continues à avoir tes étudiants peut-être à distance sur ton cursus One Health?
Oui, alors j'ai enseigné, alors ça j'ai pas du tout aimé par contre. J'ai trouvé que enseigner à travers un ordinateur, au début je me suis dit super, je vais enregistrer mes cours et puis comme ça je leur passe quand ils veulent, etc. Bon, je l'ai fait, hein, je l'ai fait en visio et puis en enregistrement. Je trouvais que c'était nul. J'ai trouvé que c'était nul pour les étudiants et c'était nul pour moi. J'étais nul pour les étudiants parce qu'en fait, il n'y a pas d'échange. Au final, ils font ça en même temps qu'ils font leur cuisine ou qui regardent Netflix à l'arrière. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il n'y a pas de partage. Je pense pas que j'ai c'est la première année, alors pas sur mes étudiants vétérinaires, mais sur les autres. Enfin, j'ai aussi des biologistes. J'ai les premières années où moi, j'ai pas mal de gens qui ont raté mon examen. Alors, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui veut faire rater les gens. Donc je me suis dit mince, c'est qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment pas compris certaines choses qui étaient très importantes. Et donc je pense que c'était pas bien pour eux. Ouais, je pense que c'était pas un bon apprentissage et c'était pas très agréable et c'était pas agréable pour moi parce qu'en fait, dans l'enseignement, ce que j'aime bien, c'est partager et qu'il y a un échange. J'essaie de faire des cours où je leur pose aussi des questions et ils peuvent interagir et réagir. À certains exemples, mon cours de One Health, je le change quasi tous les ans avec des exemples récents et concrets. Alors pas que forcément les maladies infectieuses, hein, je parle beaucoup aussi de la pollution, etc. Et donc oui, enfin pour moi, l'enseignement à distance c'est décevant.
En plus, je peux imaginer que un cours de One Health. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des choses qui sont descendantes, mais la richesse de ce genre de sujet, c'est aussi le fait de l'application au cas concret, de la réflexion en groupe sur l'analyse de comment ça a été traité, imaginer comment on aurait pu le traiter différemment, ce genre de choses.
Exactement. Alors, je pense que c'est possible de faire des... Alors, moi, j'avais commencé à faire des petites vidéos de base des concepts. Donc ça, je pense que les principes et des exemples peuvent être pris en vidéo pour expliquer de quoi on parle. Mais après, tu as tout à fait raison. Ce qui est important, c'est la discussion après de l'applicabilité et de ce qui peut être fait et quand c'est pas fait, pourquoi c'est pas fait, quelles sont les barrières. Et ouais, donc c'est pour ça que je pense qu'on peut faire une partie en ligne, mais il y a une partie qui est importante de faire ouais, en tête à tête ou au moins en discussion. S'il y avait à l'époque, on faisait pas beaucoup, mais après, j'avais beaucoup d'étudiants, je sais pas comment j'aurais pu le gérer, mais de le faire au moins des petits trucs en chat, etc., pour qu'on ait un échange. Et ce qui a manqué, c'est l'échange, ouais.
C'est quoi ta répartition de temps aujourd'hui entre l'enseignement, la recherche, le travail avec les douanes, la partie chien?
Alors, sur mon contrat, il y a marqué 40% recherche, 40% enseignement et 20% administratif. Et alors, ça dépend des moments. Il y a des moments où je pense que je fais beaucoup plus d'enseignement et malheureusement pas assez de recherche à mon goût. Mais quand même, la recherche, c'est vraiment ce qui me passionne. Enfin, j'aime beaucoup l'enseignement aussi. Alors, je sais pas, ça dépend. Je pense que c'est à peu près ce que je fais. Je pense que je fais vraiment 40, 40, 20 à l'échelle de l'année. Il y a des mois où je vais le plus faire de l'enseignement. Par exemple, le mois dernier, c'était un gros mois d'enseignement. J'ai enseigné tous les jours. Puis il y a des mois où j'enseigne que 3 ou 4 fois dans le mois. Donc ça dépend, ça varie. Mais je pense que dans l'année, ça doit être ça, 40% recherche, 40% enseignement et 20% administratif. Alors l'administratif, des fois j'ai l'impression que j'en fais beaucoup, mais je peux pas tellement me plaindre parce que j'ai aussi quelqu'un qui m'aide pour faire mon administratif. Donc j'ose pas trop me plaindre en podcast, parce que sinon quelques personnes qui pourraient m'entendre me diraient, bah dis donc.
Quand tu dis administratif, c'est beaucoup de recherche d'argent pour tes recherches.
Voilà, c'est recherche de fonds, mais aussi c'est rapport quand on est sous, faut faire des rapports. C'est aussi moi j'emploie des gens, donc c'est faire des procédures de recrutement, c'est les bilans financiers, c'est les bilans financiers, enfin tout ce que je dois signer, c'est quand même moi qui les fais. Mais donc il y a toute une partie de, on doit rendre des comptes de ce qu'on fait et d'où est-ce qu'on a utilisé et comment est-ce qu'on a utilisé les fonds. Donc c'est vraiment ça l'administratif.
Et j'imagine que tu as des thésards et des étudiants qui bossent avec toi. Je pense oui, tu l'as dit au début. Les projets de recherche, c'est toi qui les imagines, c'est des projets qui viennent à toi, comment ça se passe?
Pour l'instant, sauf une, c'est moi qui les imagine, mais après il y a différents degrés. Alors parfois c'est un projet où c'est vraiment complètement moi qui l'ai imaginé et je crée un post un peu en disant voilà, qui veut faire ce projet là. Alors souvent c'est des projets où il y a une petite marge de manœuvre, on peut changer un petit peu les choses, mais fondamentalement pas trop, parce que ça veut dire que j'ai des fonds que j'ai approchés ou le gouvernement ou une ONG ou une compagnie avec un projet et qui finance le projet pour avoir donc c'est vraiment un projet de recherche, mais c'est très souvent très applicable. Donc il y a une petite marge de manœuvre, mais pas tellement. Et puis après, il y a des projets où c'est une idée et je la développe vraiment avec l'étudiant ou l'étudiante et on co-design le projet. Et des fois, le projet est appelé à évoluer au gré des trouvailles et de la recherche et ça me va très bien aussi. Puis j'ai une étudiante, on avait un peu fait un co-design de projet, mais elle était venue avec une idée de projet et c'est donc elle qui l'a plus imaginé son projet que moi. Mais dans la grande majorité, c'est quand même moi à ce stade-là qui imagine un peu les projets. Enfin, qui imagine les projets, ouais.
T'as combien de projets en cours, là, pour le moment?
Donc, j'ai 5 étudiantes en thèse, pour le moment. Et j'ai plus d'étudiants en master, et ils ont fini. Et voilà. En Australie, il y a aussi les honors. Donc, ça, c'est ceux qui, alors je sais pas comment ça s'appellerait en France, c'est ceux qui font, qui ont fait 3 ou 4 ans d'études et qui veulent après faire une thèse. Il faut qu'ils aient fait 1 an de recherche avant de pouvoir partir en thèse. Okay. Mais ça, j'en ai pas. J'en prenais avant, mais je préfère être avec les thésards parce que c'est des projets plus construits sur les honors, c'est que 1 an. Et je pense que 3 ans et demi, 4 ans sur un projet de recherche, c'est pas de trop. Donc, je prends plutôt des thésards.
Et en termes de recherche de financement, j'imagine que toi, t'as déjà un nom assez reconnu et connu, donc ça facilite. Est-ce que la répartition ONG, privé, gouvernement, c'est plutôt toujours un peu la même chose ou c'est en fonction des projets?
Alors, il y a ONG, privé, gouvernement et bourse. Donc, c'est les bourses de recherche. Mmh. On applique, c'est aussi gouvernement, mais c'est un autre style de... Et alors, moi, j'ai peu de bourses. C'est très compétitif d'avoir les bourses. Je trouve que c'est énormément d'efforts aussi. Alors, j'en ai quelques-unes, des grosses bourses de gouvernement, mais c'est pas ma priorité. Moi, c'est plutôt gouvernement et compagnie privée. Mais souvent, je m'adresse directement au département de la santé ou au département de la santé animale ou au département de la santé humaine sur une problématique. Et je leur dis, voilà, il y a cette problématique-là. Souvent, c'est des problématiques qu'ils ont dont ils n'ont pas forcément pris l'ampleur. Ils sont intéressés. Donc des fois d'avoir quelqu'un qui vient et qui dit voilà, on va faire ça, mais on a besoin de votre soutien pour avoir accès à des sites, pour avoir accès à des données et aussi pour que vous payiez un salaire et les analyses. Souvent ça se fait en fait, enfin en tout cas en Australie, je sais pas comment ça se passerait en France, hein, mais en Australie ça se passe, ça se fait. Ils apprécient en fait.
Ils apprécient de participer à ce genre de choses.
Oui, de participer, okay. Que quelqu'un leur dise voilà, on a trouvé, vous avez cette problématique là. Alors des fois c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que je vais voir des gens pour leur dire, je viens vous expliquer le problème dont vous n'aviez pas encore conscience, mais qu'il va bientôt falloir résoudre. Donc les premiers meetings, c'est toujours un peu délicat d'expliquer aux gens qu'ils ont un problème dont ils n'étaient pas totalement encore sûrs. Et dire non seulement c'est un problème, mais en plus on a commencé à collecter quelques informations importantes et il va falloir continuer à collecter plus d'informations parce que il va falloir qu'on ait une meilleure idée de l'ampleur du problème et de comment le résoudre. Donc voilà, c'est un peu des fois un travail un peu de bras de fer, savoir comment on va amener la problématique et comment surtout on va réussir à leur faire comprendre qu'il va falloir financer le projet. Alors ça, des fois ça se fait, puis des fois ça se fait pas.
Beaucoup de diplomatie, j'imagine.
Beaucoup de diplomatie. Mais alors moi j'ai un avantage, c'est que alors je suis assez souriante, mais vu que je suis française, des fois on pense que je suis très honnête parce que il me manque de vocabulaire, etc. Alors je sais pas si c'est peut-être que le cas, hein. Mais des fois l'être direct, en fait, ça passe bien aussi.
Oui, et c'est pas forcément une compétence anglo-saxonne, quoique les Australiens un petit peu plus.
Non, c'est vrai, c'est pas une compétence anglo-saxonne, mais c'est pas amené de façon agressive, mais plus dans un esprit vraiment collaboratif et respectueux, c'est pas forcément mal pris.
T'as un exemple concret d'un projet dont tu peux nous parler?
Oui. Alors c'est une de mes étudiantes en thèse. On a une mortalité des dauphins en Australie du Sud, surtout sur une certaine zone. Et Donc c'est quelque chose dont le département de l'environnement était conscient, mais n'avait pas engagé de recherche poussée. Et donc je suis allée les voir en leur disant, ben là on a quand même une problématique, c'est que votre population de dauphins s'effondre doucement mais sûrement. Et puis là, à vrai dire, depuis quelques années, assez rapidement. Et on n'a pas de nouveau recrutement, c'est-à-dire que tous les jeunes meurent avant d'arriver à leur maturité sexuelle. Donc on vous propose de venir faire un projet pour que tous ces dauphins qui meurent en fassent des post-mortem, qu'on fasse des analyses poussées et qu'on essaie de trouver quelle est la cause. Est-ce que c'est infectieux? Est-ce que c'est chronique? Est-ce que voilà. Et quand on aura la cause, bah peut-être qu'on pourra commencer à trouver des solutions. Et donc ça c'est un projet typiquement où eux ont accepté de payer un salaire. Alors les salaires des thésards, souvent il y a une partie qui est payée par le gouvernement déjà par une bourse gouvernementale et puis après on fait ce qu'on appelle un top-up ou une autre branche du gouvernement, donc là c'est le département de l'environnement, ou par une autre bourse ou par alors on essaie d'avoir un peu plus de sous pour que ça leur fasse un vrai salaire et puis payer toutes les analyses, et donc c'est ce qu'ils ont fait, voilà. Donc on est en train de travailler sur cette problématique. Et là, ça, à mon avis, c'est encore de la santé publique parce qu'on trouve des... Alors ça, je peux pas trop en parler, mais on a des images cliniques variées sur les animaux qui partent en post-mortem. Donc c'est possible qu'on soit devant un problème de pollution de l'eau. Et qui dit pollution de l'eau, bah dit aussi pollution des poissons. Et les poissons, on les mange aussi, nous, en tant qu'humains. Donc voilà, donc peut-être que en fait cette mentalité de dauphin met juste en exergue un problème de pollution de l'environnement qui impacte pas que le dauphin, mais qui impacte tous, nous impacte tous. Donc voilà, c'est typiquement un projet qui a été payé par un département. Ils étaient pas contre, mais je pense qu'il fallait juste que quelqu'un amène le projet.
Est-ce que face à même si t'es porteuse, globalement, ce que j'entends, t'es porteuse de solutions, est-ce que tu te retrouves parfois découragée par rapport à toutes ces problématiques que tu identifies?
Oui, non. Je suis porteuse de solutions, je sais pas. Par exemple, là, sur cette problématique de contamination de l'eau, honnêtement, je sais pas si je suis tellement... Là, j'ai plus l'impression que je apporte un problème qu'une solution. Alors après, apporter le problème, c'est toujours une partie, c'est toujours la première étape de la solution. Mais je ne sais pas si on peut dire que j'apporte une solution, là. Sur le trafic illégal d'animaux, des fois, je suis découragée. Des fois, je me dis, la tâche est tellement vaste. Alors après, j'ai l'impression que pour me remettre du baume au cœur, je me dis, mais maintenant, beaucoup de gens travaillent sur cette problématique, les pouvoirs publics sont mobilisés, enfin, il y a un travail qui est en train de se faire et ça va changer. Mais quand je vais en Asie du Sud-Est ou quand je vais en Afrique, je me dis, les populations qui restent se réduisent comme une peau de chagrin, ça va tellement vite et on est tellement lent à réagir que j'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai passé 2 mois en Afrique. On a travaillé au Zimbabwe, Botswana, puis on est revenu par l'Afrique du Sud. Et je voyais, j'étais à Wangwe National Park au Zimbabwe, et on voyait cette mine de charbon, enfin de production de charbon là qui touche le National Park, qui grignote à mon avis. Je sais pas comment est-ce que le National Park a été dessiné, en fait, mais, donc on voit, c'est une zone qui est noire, que du charbon, c'est lunaire. On a traversé ça pendant des kilomètres et des kilomètres, et puis boum, on arrive sur le National Park, et là, végétation magnifique, des éléphants, des lions, etc. Et je me suis dit, tout ce qu'on a traversé avant, qui était lunaire, c'était avant ça. Avant, c'était du National Park, mais voilà, ça a été ouf, c'était un milieu naturel. Magnifique, et maintenant c'est la lune. Et ça, c'est une expérience que j'ai répétée plusieurs fois dans plusieurs endroits du monde. Et à chaque fois, je me dis, mais on détruit trop vite. On détruit trop vite, on consomme trop, mais je sais pas comment moi, à mon échelle, je peux faire plus que ce que je fais. Et des fois, ça me décourage. Et j'essaie de pas passer ça à mes enfants mais il y a pas longtemps, j'ai entendu mon fils, dire à un de ses petits camarades, et qui disait, regarde, ça c'est pas cher, on pourrait acheter ça. Et elle a dit, oui, mais ça ne prend pas en compte l'impact environnemental, ton prix. Je me suis dit, là, je leur déteins énormément dessus quand même. J'espère que je vais pas en faire des échos anxieux. Mais j'ai peur que, voilà, que j'ai peur qu'ils, ouais, qu'ils dépriment aussi. Mais oui, si, des fois, je déprime, c'est sûr.
Ouais, je comprends. Pour ne pas finir, parce qu'on arrive tout doucement quand même à la fin de ce podcast, on papote depuis pas mal de temps, et je pense qu'on pourrait papoter encore longtemps, tellement c'est riche. La partie la plus enrichissante de ton métier, pour toi, c'est quoi ?
Eh ben, c'est marrant parce que ça, c'est assez récent, j'aurais pas répondu ça avant. Mais je pense que d'être avec au contact d'autres personnes, qui, donc par exemple mes étudiants, qui ont changé leur plan de carrière. Donc en fait, à peu près tous les ans, j'ai des étudiants qui voulaient être cliniciens, chiens, chats ou autres, et qui changent leur plan de carrière pour embrasser le concept One Health et faire de la recherche ou travailler directement dans le One Health. J'ai une de mes étudiantes qui est partie pour travailler pour le gouvernement de Singapour dans leur One Health Section sur l'antibiorésistance. Et en fait, voir que ce que je peux dire à des gens a un tel impact qu'ils vont décider de travailler dans ce secteur, ben je pense que c'est ça ce qui, en tout cas, me comble le plus. Des fois, je me dis que moi, en tant que chercheuse, je sais pas si j'ai un impact majeur, mais je sais que j'ai que ma parole a permis à des personnes qui peut-être l'auraient fait ultérieurement de toute façon et en parlant à quelqu'un d'autre, je sais pas, mais de changer leur trajectoire de carrière et donc de vie. Et je me dis, c'est quand même très très puissant. Et il y a pas longtemps, je parlais, alors là c'était à des juges, hein, de justement l'impact en santé publique de certains crimes environnementaux. Et ils me disaient, mais c'est intéressant, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre pratique. Et je me suis dit, c'est fou, hein, c'est cette parole, le fait de parler, de faire un podcast, c'est pareil, hein, et que les gens écoutent et que les gens changent leur façon de voir leur travail ou même d'envisager leur futur. Je pense que c'est ça qui me comble le plus.
Ah, c'est chouette. C'est vraiment l'exemple. J'ai failli rebondir déjà quand tu parlais de la partie dans les parties découragement, mais c'est finalement faire sa part. C'est la fameuse légende du colibri. Et faire sa part, aussi petite soit-elle ou nous semble-t-elle, réaliser à quel point ça peut avoir un effet boule de neige, en fait. Et les personnes que tu touches, finalement, qu'elles se reconvertissent ou qu'elles prennent conscience de certaines choses, toutes ces personnes-là, elles vont aller, elles, on l'espère, toucher d'autres personnes. Et ça, c'est clairement, ça, c'est magique, en fait, hein.
Ouais.
Donc bravo pour ça.
Ouais, merci. Mais toi aussi, bravo à toi, parce que c'est grâce à toi que des paroles des vétérinaires peuvent être envoyées sur les ondes. T'as une grande part.
Est-ce qu'il y a une définition que tu donnerais au métier de vétérinaire aujourd'hui ? C'est une question que je sors un peu du chapeau là, mais je serais intéressée d'avoir ton point de vue là-dessus.
Je pense que le vétérinaire, c'est un docteur global. C'est-à-dire que c'est pas un docteur qui va soigner non seulement qu'une seule espèce, mais même si un vétérinaire est un vétérinaire de chien-chat, dans sa pratique qui est globale, il va aussi toucher l'humain. Et c'est en fait, alors dans ma pratique, je vais le montrer avec le lien entre l'environnement, la santé animale, la santé humaine, mais tous les vétérinaires, pour moi, sont des vétérinaires qui pratiquent une médecine globale, qui ne s'attachent pas que à soigner l'animal. Donc pour moi, c'est, j'appellerais ça les global doctors.
Nice, j'aime bien. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? C'est dit pas mal de choses. On a balayé plus d'un sujet, mais peut-être qu'il nous en manque.
Non, j'ai pas d'idée. Alors peut-être qu'on pourrait dire à toutes les personnes qui nous écoutent que en effet, chacun a un impact et chacun fait sa part. Et ce qui est important, c'est de le faire avec joie et bienveillance.
J'aime bien. Merci. Je vais te poser donc la dernière question de ce podcast qui est quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même? Donc si tu avais la jeune Annelise devant toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je pense que je me dirais comme disait l'anglais, de prendre un step back, de pas forcément prendre les choses à cœur comme des fois je les ai prises. Alors je les prends encore très souvent à cœur, mais je pense que j'aurais peut-être dû des fois. Après c'est difficile parce que c'est ma passion qui, je pense, a vraiment poussé, qui m'a aidé à être aussi déterminée. Et peut-être que si je prenais moins les choses à cœur, je serais moins passionnée, je sais pas. Mais mon travail, c'est plus qu'un travail. C'est vraiment une façon de vivre. Et des fois, je me dis, c'est trop. Enfin, je travaille, alors c'est pas que je travaille trop, mais c'est que ça prend trop de ma vie. Et quand je disais que mes enfants venaient avec moi sur le travail, c'est parce que j'aime mes enfants, mais j'aime mon travail et que je veux laisser sur le bord de la route ni l'un ni l'autre. Mais peut-être que ma version plus jeune de moi, je me dirais, faut que tu arrives à trouver un meilleur équilibre. Quand je suis venue en Australie, on m'a dit, tu vas voir, c'est super en Australie, il y a un super équilibre travail-famille. Ben, moi, j'ai aucun équilibre travail-famille. Mon travail, c'est tout le temps et ma famille, c'est tout le temps. Mais voilà, je travaille quand même tout le temps. Et en fait, je pense que le problème, c'est pas dans le pays dans lequel je suis. Le problème, c'est moi. C'est que j'aime trop ce que je fais. Et peut-être que des fois, ce serait mieux que j'aime un peu moins. Voilà.
Alors, généralement, je rebondis pas sur cette question, mais je me permets quand même de rebondir. Est-ce que c'est la société qui te dit ça, ce que tu viens d'évoquer, ou est-ce que c'est quelque chose que tu ressens vraiment?
Mais c'est un peu la société. C'est un peu la société. Parce que des fois, je me sens être un peu la mauvaise maman quand il y a les réunions parents-prof et que je leur dis, bah non, c'est pas possible. Ou alors quand, donc moi, mes enfants sont très souvent déscolarisés, parce qu'ils doivent venir avec moi sur le terrain. Et quand je dis très souvent, alors ils ont des très bonnes notes les uns les autres, l'un et l'autre, parce que je fais quand même attention qu'ils suivent le programme et que donc ils sont pas en train de rien faire. Hein. Je parle pas des enfants qui sont déscolarisés et qui font plus de travail, hein, mais il leur arrive de manquer 2, 3, 4, 5, même plus, moi, par an d'école. Donc, ça fait beaucoup. Et je sais qu'il y a plusieurs familles qui me regardent et qui me disent, mais c'est pas bon pour eux. Alors, je leur dis, bah oui, mais en même temps, je reste quand même à leur écoute. Non, pas que d'un point de vue scolaire. On fait quand même attention qu'ils se sentent bien et eux veulent. Hein. Enfin, là, cette année, c'est la première année où je leur ai vraiment dit, vous êtes sûr que vous voulez venir, etc. Parce que justement, c'était un peu la société peut-être qui me mettait cette pression. Et les deux me disaient, oui, on veut venir. Donc, c'est... Voilà. Mais oui, je sais pas si c'est la société ou si c'est moi. Peut-être que c'est moi qui ai intégré ces réprimandes sociétales.
Pas facile, hein, ce sujet-là. Je pose la question, mais sans jugement aucun, bien évidemment. Ben, j'aurais tendance à dire, ben, écoute, si tu te sens aligné et que tes enfants sont ravis, j'aurais tendance à dire que tu es peut-être sur la bonne piste plutôt que l'inverse. Merci beaucoup, Annelise, pour ce merveilleux podcast. Tu m'as transportée, j'ai trouvé ça passionnant. Je pense que certains de nos auditeurs pourraient avoir des questions, surtout s'ils veulent se lancer sur ce parcours. Je leur dis de nous contacter et si t'es ok, évidemment, on te mettra en contact directement avec eux s'ils le souhaitent.
Très bien, super. Merci beaucoup à toi pour ces bonnes questions.
Avec grand plaisir. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@emavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.